Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Viendra ma parole, nous on viendra
pas.
Le jour de la fête
à Gilles. Ça va, mec? Oui. Vos mondes sont là?
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon! Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bienvenue dans le studio des Enfants d'Europe 1. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous, désormais fixé sur l'antenne, tous les dimanches entre 10h et 11h. Rendez-vous des Enfants d'Europe 1 autour des Enfants d'Europe 1, les aînés, les cadets, les benjamins, les enfants gâtés et les enfants terribles, catégorie à laquelle j'ai bien envie d'associer mon invité d'aujourd'hui, monsieur Pierre Bouteiller. Salut Pierre.
Bonjour.
Enfant
Martin
terrible Chaud. De l'audiovisuel, ex-directeur de France Inter, puis de France Musique, sans oublier un passage à Antenne 2 du temps de Marcel Julien, mais d'abord et avant tout, un gamin d'Europe 1, arrivé dans une station où vous resterez 10 ans, sur un concours de circonstances, avez-vous l'habitude de dire, et en l'espèce, c'est d'un vrai concours qu'il s'agit.
Oui, c'était la Coupe des reporters, une émission de Pierre Laforêt. Moi, j'écoutais énormément Europe numéro 1 quand j'étais étudiant, parce que les disques étaient chers, j'adorais le jazz, et avec des amis, on se réunissait autour du post-radio, ou peut-être même qu'on s'est réunis après autour de la télévision, on regardait la radio, quoi, pour écouter une émission qu'on venait de découvrir sur la bande des grandes ondes, entre ce qui était encore Paris Inter et la BBC. Et ça s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Et c'était fantastique, il y avait deux mecs absolument inconnus, qui s'appelaient Théno et Philippe Aki. Et tous les soirs, il y avait un programme formidable de 2 heures de jazz. Donc, on se faisait des radio parties autour de Spaghetti avec des amis et on écoutait ça. Puis, je me suis aperçu quand même qu'à part les 2 heures de jazz, il y avait quand même 22 autres heures formidables sur cette antenne qui était en train de tout ringardiser. Ouais. La modernité de l'écoute, la modernité de la prise de son, la modernité de la mobilité aussi de la prise de son et de l'écoute, le fait que tout se passait ici, qui ringardisait à la fois Radio Luxembourg, qui n'était pas encore RTL, et Paris Inter, qui n'était pas encore France Inter. Donc j'ai écrit comme tout le monde, ouais. Parce que je savais qu'il y avait une émission qui s'appelait La Coupe des reporters, où ils recherchaient des nouveaux talents journalistiques. J'ai écrit, j'ai été sélectionné, puis voilà.
Et vous avez gagné?
Non. Pour être tout à fait honnête, il y avait 3 personnes en finale. Oui. On s'est retrouvés 3 en finale. Il y a eu 16e, 8e, gare, etc. Et en finale, il y avait Philippe Labro, deuxième dont je tairai le nom, et moi. Philippe Labro a eu 9 voix, moi j'en ai eu 8, et le troisième, 0. Dans sa grande mensuétude, le jury de la Coupe des reporters a considéré que nous étions ex aequo, Philippe et moi. Je l'appelle Philippe parce qu'on est devenus amis depuis 46 ans. Et on a été engagés tous les deux au journal Parler d'Europe numéro 1 avec Maurice Sigel et Lucien et Louis Merlin, le grand patron de la station.
Donc pas une vocation de journaliste au départ?
Non, effectivement, quand je dis que c'est un concours de circonstances, c'est pas seulement une coquetterie sémantique, mais c'est parce que je poursuivais des études que je n'arrivais pas à rattraper. La radio, bon, je tchatchais un peu, j'aimais le jazz, j'aimais la musique, classique aussi, j'aimais tout. Alors, je veux dire, cette maison qui est maintenant une très grande maison moderne, la bande magnétique, ça fait partie des dinosaures de la technique, etc. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, Europe a ringardisé les autres. Pour toutes les raisons que j'ai indiquées, techniques d'abord. Faut pas oublier que à l'époque, à la fin des années 50, puisque c'est 58, pour prendre la déclaration d'un ministre de la 4e République sur le perron de Matignon, ou du président du Conseil, à l'époque ce n'était pas des premiers ministres, on mobilisait 2 quarts immenses pour enregistrer sur un disque dur, vraiment, vraiment très dur, mais qui faisait 80 cm, 2 minutes. Et là-dessus, il y a eu l'invention géniale de ce fou de Kudelski. Et on a eu les premiers Nagra à manivelle.
Je voulais revenir simplement sur ce que vous disiez au départ. La vocation du jazz est une émission qui, effectivement, s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz, qui a contribué à faire la notoriété d'Europe 1. Émission symbole, émission vedette pour beaucoup de gens de cette génération. Une émission qu'on retrouve.
Bonsoir Daniel, comment vas-tu?
Ah, ça va très très bien. Je vois un disque là.
Hein? Attends, ne le prends pas.
Pourquoi je ne prendrai pas?
Mais parce qu'on va le passer tout de suite.
Mais d'accord, mais alors... laisse-moi regarder la photo.
Mais c'est un disque de Clark Terry.
C'est ce gros monsieur. Ah, c'est Clark Terry.
Et tu sais à quelle vitesse il marchait?
Non.
Hein? Eh bien, il marchait à plus de 85 mesures à la minute. Non, mais c'est marqué, hein? c'est une nouvelle cote maintenant.
85 mesures à la minute?
Oui.
C'est un... Dis donc, pour battre ça, hein, c'est un drôle de boulot.
Oui.
Drôle de boulot. Maintenant, je te propose peut-être... je te suggère...
Une jam session?
Bah oui, peut-être.
Eh bien, ouvrons les portes aux musiciens. Henri Renaud, veuillez venir d'abord à côté de moi. Mais Henri Renaud va nous dire quel est le titre du morceau suivant. Et puis alors, je vais lui demander un petit service, parce que nos auditeurs, quelquefois, nous reprochent. Ils ne croient pas que ce sont des orchestres qui viennent vraiment dans nos studios. Ils pensent que c'est des disques, là. Ils croient à un trucage. Alors, pour bien montrer qu'ils ont... Voilà ce que je demandais. Jacques, avec sa perspicacité coutumière, a tout de suite saisi. Il a compris. Alors, donc, il y a une basse, mais il y a la batterie aussi, parce qu'ils vont croire que c'est un bruitage. Un petit peu de batterie, là. Voilà, ça marche. Et maintenant, le blues.
On va jouer un petit blues à 18h.
Oui, traditionnel ?
Traditionnel.
Le blues traditionnel.
C'est ça, tout à fait.
Pour ceux qui n'ont pas l'image, Pierre Bouteiller est en train de faire du piano sur la table du studio. Ça vient d'où cette passion du jazz, Pierre ?
La radio. Je ne sais pas si le jazz m'a mené à la radio, mais c'est la radio qui m'a mené au jazz. Parce que quand j'étais enfant, ce que je raconte dans mon bouquin, que vous avez eu la courtoisie et le professionnalisme de lire, mes parents n'avaient pas d'argent. Et là encore, on n'avait pas beaucoup de disques. Et j'écoutais énormément la BBC, parce qu'à un moment... La fonction de mon père, qui était directeur de la Banque de France, l'a amené à changer de ville tous les 3 ans. Et on était une fois à Saint-Malo. Pendant 3 ans, j'ai écouté la BBC, BBC One, BBC Two Light Programme, et j'ai découvert la musique par la radio et par la BBC et le jazz. Et effectivement, j'ai écouté beaucoup de jazz, et puis j'ai acheté quand même quelques disques, hein, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, d'ailleurs les chaumières ne pleurent plus. Et j'ai essayé de reproduire au piano ce que j'entendais. C'est-à-dire les 45 tours, je l'ai passé à 33, et les 33, je l'ai passé même à 16, le 16 tours.
Vous n'avez pas été un adepte du solfège, quoi?
Ah, je ne sais pas lire, je suis un analphabète de la musique. Non, je ne sais pas lire, je suis un autodidacte. Il n'y a pas de quoi se vanter, c'est comme ça. Mais je crois avoir un petit peu d'oreille et un peu de mémoire. Donc, effectivement, j'ai ce réflexe quand j'entends... Je crois que c'est Henri Renaud qui devait jouer, là. Henri Renaud, qui était un formidable pianiste, et c'est lui qui m'avait trouvé mon indicatif, qui s'appelait Girl Talk, qui dansait sur moi.
C'est parce que on met du jazz sur l'antenne qu'on est une radio révolutionnaire à cette époque-là.
Ah, écoutez, moi je trouvais ça gonflé, parce que mettre 2 heures de jazz par jour, faut bien voir à quelle époque et d'où on vient, dans la fin des années 50. De jazz, qui est une musique qui a toujours été, faut bien le dire, minoritaire, dans un pays qui n'a pas l'oreille musicale, qui pendant longtemps a entendu le discours sur l'assimilation de la musique de jazz à une musique de nègre, musique de voyou, musique de zazou, enfin, c'est pas, vous savez, il y a pas si longtemps, faut voir, encore une fois, faut voir d'où on vient, assimiler à la drogue, à la fumée, à la dépravation, etc. Donc je pense que c'était gonflé pour Louis Merlin. On ne rendra jamais assez hommage à Louis Merlin, qui a créé cette maison. C'était assez gonflé de mettre 2 heures de jazz par jour.
La personnalité de Louis Merlin, qui était effectivement à l'époque le grand monsieur d'Europe 1, il trouvait ses idées où d'ailleurs?
Ah ben il a une seule idée, enfin non, je plaisante, il a une très grande idée, c'est de prendre un Constellation, c'était des avions réalistes, et d'aller aux États-Unis. Et il a découvert la radio moderne. Il s'est aperçu là-bas qu'il n'y avait pas des speakers, comme il y avait encore à la RTF, mais à la RDF, Radio Diffusion Française, vous savez, qui disait « Mesdames et messieurs, en direct de la Comédie Française, voici un caprice d'Alfred, de Musset. » C'était un joke, mais il paraît que c'est vrai. Et il s'est aperçu qu'aux États-Unis, il y avait les radios modernes, qui n'étaient pas encore FM, il n'y avait pas de FM, mais les radios modernes n'utilisaient pas de speakers, mais des disc jockeys, et qui à l'époque n'avaient pas l'acception que le terme a maintenant dans les discothèques. Et il a baptisé ça, il a traduit ça en meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait, au lieu qu'il y ait des speakers qui lancent une voix de stentor loin du micro en hurlant des pubs, il y avait des gens comme Maurice Gardette, Roger Duquesne, qui assuraient une sorte de continuum de l'antenne et qui passaient les pubs, mine de rien, entre deux émissions comme ça, et c'était la grande évolution de Merlin. Il a eu d'autres idées, la preuve, cette émission sur le jazz, puis tout ce qui a suivi. Puis il a su s'entourer de gens comme Siegel pour l'information, Lucien Maurice pour les programmes, etc.
Louis Merlin, dont on va réentendre la voix, ainsi que celle de Claude Terrien, autre figure de la station, à l'occasion d'un drame épouvantable, la catastrophe du barrage de Malpasset, fin 59. Ce soir-là, l'émission créée par Pierre Belmar, Vous êtes formidable, prend un tour exceptionnel.
Alerte à tous les amis d'Europe numéro 1. Alerte, vous tous qui nous écoutez. La France vit aujourd'hui un drame plus grave que vous ne l'imaginez. Le moment est venu pour vous d'être formidable. Au nom d'Europe numéro 1, Louis Merlin vous parle.
J'ai comme vous le cœur serré. Depuis ce matin, toute l'équipe Vous êtes formidable de Jacques-Antoine, à laquelle nous sommes fidèles comme elle nous est fidèle, est sur le pont. Ce Vous êtes formidable sera enfin exceptionnel, puisque non seulement les amis d'Europe numéro 1 l'entendront, mais aussi tous les auditeurs de Radio Monte-Carlo. Je me permets d'adresser ma déférente gratitude à Son Altesse Sérénissime le Prince Régnier de Monaco pour avoir permis que pour la première fois deux grandes stations privées s'unissent devant le malheur. Ce soir, plus que jamais, cette émission sera celle de la générosité. Amis de Radio Monte-Carlo et d'Europe numéro 1, Claude Terrien vous parle.
Ce n'est pas un journaliste qui vous parle. Ce n'est pas un homme de radio. C'est un homme tout court. L'information, c'était hier à minuit. Le barrage de Malpasset vient de craquer. Mais depuis, l'information est devenue une tragédie. Elle ne se dit plus. Elle ne se chiffre plus. Elle se sent et elle fait mal. Et vous, devant votre poste, vous n'êtes plus ce soir quelqu'un qui attend des informations. Vous êtes, vous aussi, quelqu'un qui a mal. Vous avez d'autant plus mal que ce qui a été ravagé, ce sont 7 kilomètres d'une petite vallée où vous ne pouviez rien imaginer, rien, sinon le bonheur. Un bonheur comme dans les chansons, tout simple, avec du soleil et des cigales. Oui, entre le barrage et Fréjus, il y avait 7 kilomètres de bonheur. Il y a, ce soir, 7 kilomètres de boue. Une boue où il y a encore des enfants vivants, pris comme des oiseaux dans de la glu. Ne vous bouchez pas les oreilles, ne vous bouchez pas le cœur, ne fermez pas les yeux. Regardez bien en face l'image du malheur. C'est un enfant vivant, prisonnier de la boue, un enfant qu'on ne pourra peut-être pas sauver.
Un reportage que vous allez couvrir, Pierre Bouteiller, comme journaliste pour Europe 1.
Oui, je l'ai couvert, effectivement, pour la rédaction et non pas pour l'émission Vous êtes formidable, mais effectivement, j'ai été envoyé spécial, ça me revient maintenant. Je n'étais pas le seul, il y avait Besançon aussi, dont on a reconnu la voix tout à l'heure.
Décrivez un petit peu le reportage à ce moment-là, à cette époque. Qui décide de quels moyens dispose précisément le reporter? Comment est-ce qu'on envoie les sons, les papiers?
Alors, c'est très simple, enfin, pour autant qu'ils m'en souviennent, on avait effectivement, c'est Nagra qui était révolutionnaire, puisque c'était
téléphone de reportage.
On était passé directement du lourd camion d'enregistrement à ce magnétophone portatif qui pesait quand même près de 12 kilos et qui avait une manivelle. Hein, il n'y avait pas encore les piles, mais pas encore de moteur, et où on pouvait quand même être indépendant, mobile et rapide. Donc, j'ai appris à me servir du Nagra. Et ce qui était très bien dans cette maison, qui a toujours été une formidable studio-école, c'est qu'on nous apprenait non seulement à nous servir du Nagra, mais aussi à monter. Nous montions nous-mêmes nos propres reportages. Il n'y avait pas de technicien. Il n'y avait pas une grève si on montait nos reportages. Nous montions nous-mêmes nos reportages. Moi, j'avais même appris tout seul à faire passer la bande derrière la tête d'effacement pour faire un mixage sans avoir deux entrées. Enfin, je suis un peu technique. Et il fallait à la fois être un peu technicien et puis être journaliste aussi quand même, savoir parler, savoir poser des questions. On était quand même des reporters et des journalistes des athlètes complets de la radio.
Et comment on envoyait les sons ?
Alors les sons, on allait dans ce qu'on appelle les répéteurs à l'époque, c'est-à-dire c'était des centres, des PTT, où il y avait, je me rappelle, c'était toujours impeccable, on prenait des patins, il y avait des patins parce que le sol était brillant, et on branchait la sortie du Nagra sur des lignes réservées à l'avance, et on envoyait ça à la station. Je me souviens une anecdote,
oui.
En reportage à Nice, Jacques Médecin, à son âme, était
ancien
maire, mais il a été correspondant d'Europe, je ne sais pas si vous le savez, de l'Europe et de l'Europe. Et il faisait déjà la loi, il connaissait tout le monde, il tutoyait tout le monde. Il me dit, tiens, tu veux qu'on s'amuse à écouter les conversations ? J'ai dit, écoute, ça va pas. Et dans un répéteur, il nous a fait entendre des conversations privées de tous les gens de Nice, comme on voulait. C'était incroyable. C'est une anecdote qui me revient comme ça. Non, j'en termine sur le Nagra. Ce qui est bien, bon, je pense qu'il n'est pas, nécessaire de pondre des œufs pour goûter une omelette. Mais je pense que moi, en ce qui me concerne, savoir enlever une syllabe sur une bande magnétique, ça m'a servi dans ma carrière. Parce que quand j'étais directeur de radio, quand j'étais directeur de France Inter, si je demandais, il faudrait m'enlever ça, le type me dise non, moi je le fais, je prends les ciseaux, je le faisais, voilà.
On se retrouve dans quelques instants dans le studio des Enfants d'Europe 1 en compagnie de Pierre Bouteiller.
Marc Tronchot.
Retour dans le studio des Enfants d'Europe 1 avec l'un d'entre eux, Pierre Bouteiller. Quels sont les reportages qui ont marqué le jeune Bouteiller pendant ses premières années à Europe ?
Là, vous me posez une colle parce que c'est peut-être certaines interviews que j'ai réalisées, des rencontres dont je n'ai pas fait état dans mon livre, parce que je pense que si on fait son métier correctement pendant plus de 40 ans, on rencontre tout le monde, donc je vois pas. Les gens que j'ai rencontrés, tout le monde a pu les rencontrer. Et j'ai simplement rendu hommage à 2 ou 3 personnes en particulier, comme André Harris, qui était mon meilleur ami, ou Jean Cocteau, qui m'a traité comme si j'étais un immense journaliste, alors que j'étais un jeune stagiaire, et j'ai trouvé ça formidable. Je ne voulais pas faire état de rencontres. Mais, puisque vous me posez la question de reportages qui m'ont marqué, ce sont des interviews, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, Mendès France et Jean-Paul Sartre. Mendès France, que j'ai connu pendant sa campagne électorale en 67 à Grenoble, et qui m'a fait beaucoup attendre pour une interview. Mais une fois qu'il a décidé que ce serait, il m'a consacré tout son temps, il m'a traité comme si j'étais aussi un...
Et Sartre
Sartre aussi, c'était pour les séquestrés d'Altona, je crois. Ça devait se jouer sur les boulevards.
Et il y avait Reggiani,
Il y avait Reggiani. Avec Reggiani, bravo. Bravo. Oui. Vous voyez, vous avez une culture que je n'ai pas. C'est vrai que c'est impressionnant, interviewer Sartre, on a l'impression d'avoir du talent, on a l'impression d'être intelligent.
Dans un autre genre de beauté, le mariage de Dalida et de Lucien Maurice, vous en souvenez?
Oui, bien sûr, oui. Je vois que vous êtes au courant.
Nous sommes en septembre 61, dans la salle des mariages de la mairie du 16e, sous l'autorité du maire, monsieur Henri Gros, et il me semble voir dans l'assistance un certain Pierre Bouteiller.
Lucien Maurice, consentez-vous à prendre pour épouse Yolanda Christina Gigliotti?
Oui.
Yolanda Christina Gigliotti, consentez-vous à prendre pour époux Lucien Maurice?
Oui.
Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage.
Lucien Maurice et Yolanda Christina Gigliotti ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence d'Edouard Hulot, dit Eddie Barclay, président de société, et de Jean Fridina, directeur administrateur de société.
L'officier de l'état civil adresse aux nouveaux mariés des compliments et des vœux. Cet usage, je le suivrai avec plaisir à votre égard, madame et monsieur. Laissez-moi, madame, vous complimenter d'abord de vos talents et de vos succès artistiques. Vos chansons ont conquis non seulement la France, mais aussi l'étranger, et jusqu'à Telcourt royal. Vous méritez également, monsieur, d'être complimenté, car vous servez, vous aussi, l'art victorieusement. Les programmes que vous établissez sont bien choisis et très remarqués. Mais aujourd'hui, madame et monsieur, je vous félicite surtout de vous être alliés pour fonder un foyer. Et dans cette alliance, vous avez été assisté de témoins très distingués et entouré de nombreux amis et admirateurs. Votre témoin, monsieur, anime une firme de disques excellents. Et le vôtre, madame, préside aux destinées de grands postes de radio qui diffusent informations et cultures et ont la plus large audience. Je vous adresse maintenant des vœux de bonheur. Et je suis persuadé qu'ils se réaliseront, car le foyer que vous venez de créer sera assurément radieux et affectueux et le gage d'une heureuse union.
Et c'est la sortie des mariés dans la cour de la mairie du 16e. Je suis enfoui sur les serpentins et les confettis, je ne vois même plus ma magnétophone. Quant à Lucien Maurice et à Dalida, je les distingue assez mal. Ce ne sont que des tas de confettis qui bougent un peu, qui bougent de moins en moins d'ailleurs, parce que maintenant, la cour est jonchée de confettis de serpentins pendant que l'orchestre de Raymond Lefebvre interprète dans le style fanfare de village les plus grands succès de Dalida, c'est-à-dire Itsy Bitsy, etc. et autre chose nettement culturelle. Merci. Lucien Maurice, vous avez bien réfléchi?
Bien sûr, pendant un certain temps.
Combien de temps?
4 ans.
Pourquoi tant, si longtemps?
Bien, on hésite toujours à épouser une artiste. Et, en fin de compte, Dalida m'a fait comprendre certaines raisons que j'ai comprises. Et me voilà marié. Et j'en suis très heureux.
Dalida, pourquoi vous avez attendu si longtemps?
Eh bien, comme ça, j'espère qu'il durera plus longtemps encore.
Bon, alors vous aurez beaucoup de bambinos, je suppose.
On va essayer. Bon, on en souhaite, en tout cas.
Pas pour le moment, mais j'espère pour l'avenir.
Et un peu Sirpompe, officier d'état civil, hein, Pierre?
Oui, oui, apparemment, je ne sais pas si l'histoire retiendra son nom. Enfin, elle retiendra celui de Dalida, surtout.
Oui. Et Lucien aussi Maurice, directeur des programmes
Lucien Maurice qui parlait comme ça. C'était un personnage.
Le mariage de Dalida et de Lucien Maurice, c'est un symbole de l'union, on va dire, discutable de la chanson et du micro, non?
Oh, vous n'êtes pas sentimental, Marc Tronchot. Moi, je crois toujours au roman d'amour, vous savez. Maintenant, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. C'était plus pratique que... Je sais pas, franchement, vous évoquez là des souvenirs qui ne sont pas forcément glorieux pour moi, puisque moi, je me suis beaucoup frité avec Lucien Maurice, même si je reconnaissais son talent de scout. Mais enfin, il est évident que... dans un groupe où il y a à la fois une filiale de maison de disques et qu'on est à la fois directeur de la maison de disques et directeur des programmes de la station, ça s'appelait pas encore à l'époque des intérêts croisés, mais ça y ressemblait beaucoup. Et moi, en tant que journaliste qui était en direct, je faisais ce que je voulais entre un disque de Léo Ferré, de Juliette Gréco ou de Frank Sinatra et les produits des disques AZ, j'avais fait mon choix.
Vous n'êtes pas très variété d'ailleurs, vous n'êtes pas très yéyé ni rock'n'roll à l'époque, si?
J'adore la variété, mais j'ai souvent reproché à ce qu'on appelle les variétés d'être peu variées, pour ne pas dire avariées. Alors moi, mes variétés, effectivement, à l'époque, c'était Jean Ferrat, Léo Ferré, Yves Montand, Barbara, Juliette Gréco, que sais-je encore, Gilbert Bécaud, qui était un artiste maison avec qui j'avais d'excellents rapports. Mais enfin, je faisais mon programme moi-même. Alors ça, je jouais pas forcément le jeu, donc.
Je voudrais qu'on écoute aussi un extrait d'interview réalisé par vous et réalisé à l'occasion de la première à l'Olympia d'un certain Johnny Hallyday. Puis après, vous nous raconterez car il y a des choses à ajouter.
Johnny Hallyday, 18 ans. Quel est votre véritable nom?
Jean-Philippe Smet.
Pourquoi avez-vous choisi ce surnom de Hallyday?
Eh bien, tout simplement parce que avant moi, mon cousin et sa femme faisaient un numéro de danse et il s'appelait les Hallyday.
Depuis combien de temps chantez-vous?
2 ans.
Combien de temps êtes-vous professionnel? 2 ans.
2 ans, oui.
Que faisiez-vous avant?
Avant, eh bien, je prenais des cours de guitare, je faisais le conservatoire de guitare.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Quelle formation avez-vous?
Bien, j'ai une formation très simple, j'ai fait l'école primaire, c'est tout.
Vous avez du succès, vous avez beaucoup de succès, vous le savez, même un succès très rapide. Alors, selon vous, comment l'expliquez-vous?
Je chante, ça plaît à certaines personnes.
Au cours de votre spectacle, vous êtes habillé d'une façon un peu excentrique, vous roulez par terre. Est-ce que vous en éprouvez le besoin ou est-ce un facteur de succès, un facteur commercial?
Non, j'en éprouvais pas le besoin, c'était simplement... c'était naturel, quoi. C'était une chose pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça se faisait comme ça.
Bon alors Pierre Bouteille, un peu d'histoire, c'est la première de Johnny Hallyday à l'Olympia. On sent que vous l'interviewez avec, on va dire, un peu de recul et pas énormément de passion.
Oui, effectivement, j'étais en charge des directs de l'Olympia. puisqu'il y avait eu de grosses, comment dirais-je, de bonnes relations entre l'Olympia et Europe numéro 1, autrement dit entre Lucien Maurice et voilà. Bruno Cocatrix. Et vous n'avez pas passé, peut-être que c'est pas sur la bande, je le raconte dans le bouquin, à un moment, je lui ai dit, vous vous intéressez à la vie publique, etc., à la politique, vous voyez, c'était une question prémonitoire quand même, 40 ans avant. Et il me dit, oui, bien sûr. Et je lui ai dit, par exemple, vous savez qui est le nom du Premier ministre actuel ? Il y a un blanc, et on entend une voix qui dit, oui, c'est Michel Debré, et celui qui souffle, c'est Bruno Cocatrix. Et moi, je le dis à l'antenne. Je dis, c'est Bruno Cocatrix qui vient de souffler à Johnny Hallyday le nom du Premier ministre Michel Debré. Après ce direct, je n'ai plus fait de direct de l'Olympia.
Ah. Alors, Europe numéro 1, à l'époque, a complètement parti lié, effectivement, à l'Olympia, mais cela aussi pour de bonnes causes, parce que beaucoup de musicorama sont enregistrés.
Il y a des choses magnifiques,
notamment
magnifiques.
Des concerts comme vous les aimez, parce que des grands noms du jazz vont défiler dans la salle.
J'ai tous vu.
Dizzy Gillespie, Ray Charles, Jerry Mulligan, Lionel Hampton, et il n'y aura pas que l'Olympia pour accueillir les musicorama d'Europe 1, l'Alhambra également, la salle Playel, pour un concert de l'un de vos artistes préférés. C'est quoi, Pierre?
C'est facile, c'est Indol par Oscar Peterson, la salle Playel.
Bravo, c'est gagné.
C'est extraordinaire, c'était le plus grand pianiste que j'ai vu et entendu. Je l'ai vu au moins 60 fois, entre autres, grâce à Europe d'ailleurs. Il y avait des spectacles formidables, ça c'était Tenno et Philippe Aki qui produisaient des spectacles. Europe a fait énormément pour le jazz, non seulement dans le rôle de la diffusion, mais dans le domaine de la production. On en a un exemple sonore absolument magnifique, c'était bien avant que, hélas, vous savez, il a perdu l'usage de son bras gauche.
En 62, c'est au Lido que ça se passe, un événement qui ne s'est plus jamais reproduit. Le passage de Frank Sinatra à Paris. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. Why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake. Les auditeurs, s'ils étaient spectateurs, verraient Pierre Bouteiller en train de jouer du piano, toujours sur la table du studio, mais également chanter pendant que Sinatra fait de même sur la scène du Lido. C'est un concert un petit peu particulier pour le Pierre Bouteiller de l'époque.
Pour être tout à fait honnête et précis, je n'étais pas au Lido, j'étais le lendemain à l'Olympia, puisque le concert a été doublé, puisque c'était au profit des Chœurs d'enfants, l'œuvre qu'avait lancé Louis Merlin. Et devant le succès, il était prévu deux concerts, un concert un peu, disons, people, on n'employait pas le mot à l'époque au Lido, et un concert plus grand public à l'Olympia, qui était présenté par Charles Aznavour. Et c'était un moment extraordinaire, parce que moi, Sinatra a été toujours, pour moi, le plus grand chanteur de jazz variété de tous les temps. Celui qui avait l'oreille absolue. Et on m'avait demandé de présenter le spectacle sur l'antenne avec un donnant-donnant. Il dit, tu n'auras pas de cachet parce que c'est pour une œuvre, les Chœurs d'enfants en l'occurrence, mais d'un autre côté, on te paye ta place à l'Olympia, puisque même les gens d'Europe payent leur place pour l'œuvre. Donc, j'essaie avec beaucoup de plaisir, j'aurais payé pour faire cette émission, ce que j'ai fait, et je m'en souviens encore. C'est en 62.
Et animer une émission comme celle-là, ça consistait à faire quoi ?
Bon, c'était assisté, et puis il a présenté pendant les applaudissements, les reprises orchestrales, annoncé Aznavour, dire qui étaient les musiciens. C'était, c'est peut-être, si j'ai bonne mémoire, il y avait Bill Miller, qui a été son pianiste de tous les temps, qui est mort il y a quelques mois simplement, Bill Miller. Et je crois que le vibraphoniste, qui est un des plus grands vibraphonistes, ils sont tous morts, hein, de l'histoire du jazz, ça devait être Red Norvo.
On se retrouve dans quelques instants dans le studio des Enfants d'Europe 1 avec Pierre Bouteillé.
Marc Tronchot reçoit ce matin Pierre Bouteillé.
Pierre, on parlait tout à l'heure du reportage, des papiers. J'en ai retrouvé un parmi d'autres. Vous couvrez déjà plutôt l'actualité culturelle, celle du cinéma. Et vous êtes à Cannes, édition 68, c'est-à-dire au cœur de l'ébullition née de la révolte étudiante.
Qui donc a dit qu'il ne se passait jamais rien au Festival de Cannes ? Aujourd'hui, il s'est passé des choses et on parle du festival. Le malheur est que pour faire arriver à faire parler de lui, le festival soit obligé de se saborder. On arrive donc à parler de quelque chose qui n'existe plus. On s'est battu sur la scène du palais, on s'est battu entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la poursuite des manifestations et des projections. Les pour, c'est-à-dire les dirigeants du festival, ceux qui en font commerce, les producteurs, les impresarios et autres intermédiaires, disaient « D'accord, pour arrêter les mondanités, lunch, dîner, fiesta et autres surprises parties, c'est un peu déplacé compte tenu de la conjoncture, mais enfin, continuons le festival lui-même, autrement dit, les projections et la compétition ». Pas du tout, disaient les contres, c'est-à-dire ceux qui font effectivement le cinéma, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs. Il faut tout arrêter, et les projections, et la compétition. C'est indécent de continuer. De plus, il faut profiter de ce mouvement général pour rendre au cinéma sa liberté. Robert Favre-Lebré, le patron du festival, a essayé d'avoir les opposants au forcing, en faisant éteindre dans la salle et en faisant commencer la projection du film espagnol. Mais les manifestants ont coupé le son et ils se sont agrippés au rideau qui, de ce fait, n'a pas pu se lever. On projetait donc un film sur un rideau gris, agité de soubresauts, autant dire qu'on n'y voyait rien. On n'entendait rien non plus. Dans la salle, les Cannois désœuvrés du samedi, qui avaient l'occasion unique d'aller au cinéma gratuitement, car l'entrée de ce happening était libre, les Cannois criaient « Projection, projection !» Le chahut reprenait. Finalement, Robert Favre-Lebré et ses amis d'une part, Godard et les siens d'autre part, se réunissaient, ils conféraient, chacun faisait des concessions, et on en arrivait à ce compromis. En raison de la démission de quatre membres du jury, dont Louis Malle et Monica Vitti, compte tenu du retrait de la plupart des films, dont en particulier le film qui représente la France, Les Gauloises bleues de Michel Cournot, on décidait de supprimer la compétition et les festivités, bien entendu, mais on continuait les projections de travail à condition que les producteurs et les réalisateurs soient d'accord. Et y aura-t-il beaucoup de réalisateurs d'accord pour faire projeter leurs films dans ce festival de Cannes ? Je ne le crois pas.
C'est un bon souvenir, ça, Pierre ?
Oui, c'était un bon souvenir parce que...
D'abord, premier festival.
C'est mon premier festival, donc j'en ai quand même 36 au compteur. Et il faut bien voir qu'on m'avait envoyé au festival, pas du tout pour me faire plaisir, mais pour m'éloigner. Je pensais mal, hein, j'étais pas bien vu. En mai 68, j'étais pas vraiment du côté des gaullistes. Pas gauchiste, mais enfin, j'avais quand même, on avait tous ici de la sympathie pour le mouvement. Ça bougeait. Enfin, heureusement qu'il y a eu mai 68. Enfin, c'est un autre débat. Bref, les gens qui pensaient mal, comme par hasard, on leur trouvait des missions et des reportages à faire. Donc, on m'a dit, Coco, c'était beaucoup Coco. Ah, si j'allais parler comme ça, Coco, faudrait que vous alliez au festival de Cannes. Alors, je suis allé, j'ai pris ma petite auto, et alors, c'est passé le périphérique qui n'existait pas.
C'était l'auto d'Europe ou c'était?
Non, mon auto personnel.
Ah, oui.
J'avais une Alfa. J'étais un jeune con. Je frimais avec mon Alfa. Vous savez, il y a eu une arrogance à l'époque. Comme il y a eu une arrogance il y a 20 ans à Canal+. On était les découvreurs de pétrole. Enfin, on était quand même, on frimait beaucoup parce qu'il y avait une telle modernité, encore une fois, à Europe, qu'on ringardisait tellement les autres qu'on se la pétait, comme
Rebelle
on dit.
Rebelle en Alfa Romeo.
Ah, oui. Oui, j'ai eu une Trion d'abord, puis une Alfa Romeo. Enfin, c'est vrai, ça fait gagner du temps parfois. Enfin, bref, c'est pas ça le problème. Je me suis aperçu qu'on disait qu'il n'y avait pas d'essence ni rien, mais moi je suis descendu en sifflotant jusqu'à Cannes. Les stations de service étaient pleines. Il y avait un tel décalage entre Paris et la province qui existe toujours. Enfin, c'était très, très. Et j'ai découvert, j'ai eu la chance, grâce à mai 68, de découvrir le festival dans ce qu'il a de plus événementiel, imprévisible, drôlatique, politiquement incorrect. C'était, pour un jeune reporter que j'étais, c'était formidable. Donc c'était un très très bon souvenir. Et je suis remonté par la route sans problème d'essence.
On a dit que les radios privées d'information n'étaient pas bien vues des autorités à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a la part de la légende et de la réalité.
Il y a une part de réalité dans la mesure où les radios privées, surtout Europe, qui était en pointe, hein, par rapport à ce qui n'était peut-être pas encore RTL, et Radio Monte Carlo avait techniquement été très en avance, puisqu'il y avait des radiotéléphones. On a coupé les radiotéléphones à Besançon, à Loga, enfin à tous ceux qui, les reporters qui étaient, et on nous appelait Radio Émeute, hein, parce que vous savez, c'est toujours la faute des médias. C'est pas...
Ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé, c'est pas... Il y a une malversation quelque part. Celui qui a tort, c'est pas celui qui a commis la malversation, c'est celui qui la raconte depuis l'Antiquité, où on coupait la tête aux porteurs de mauvaises nouvelles. Les choses n'ont pas évolué. Donc, Europe, c'était Radio Émeute. Alors, on n'était pas bien vus, les jeunes reporters, et puis...
C'est
bon...
l'époque où ils allaient chez l'habitant pour téléphoner.
C'est ça, oui, ouais. Absolument. Oui, j'ai connu ça. Oui. Je me suis même fait jeter, parce qu'il y avait les bourgeois qui disaient cela. Enfin, moi, 68, il ne faut pas oublier, vous êtes trop jeune, mais enfin, c'était la révolution. Les chars russes devaient être place du Palais Bourbon, hein, à la limite. C'était... Et puis, bon, vous connaissez la suite. Et donc, c'était des bons souvenirs, mais le Festival de Cannes, j'en ai connu de moins amusants.
Il y avait un parfum à cette époque de dérision, un mélange de liberté de canular, l'époque où les canulars téléphoniques justement étaient à la mode. Vous le rappelez dans ce livre, effectivement, intitulé Radioactif, on va dire qu'il a été publié chez Robert Laffont au début de cette année, et la mode du canular téléphonique dont Francis Blanche était le maître sur cette même antenne.
Allô, allô, Francis Blanche à l'appareil. Eh bien, cette semaine, je me suis amusé à consulter les offres d'emploi dans les journaux. Après ça, j'ai essayé le personnage du postulant concierge qui veut se servir de sa loge pour une petite industrie artisanale. Voilà ce que ça a donné.
Allô, je téléphone au sujet de la place de concierge.
Oui, monsieur.
Quelles sont les conditions, s'il vous plaît?
Écoutez, d'abord, monsieur, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous remplissez ce qu'on a demandé, là? Vous avez des enfants?
Non. Pourquoi il faut...
Pas d'enfants? Non, justement, la loge n'est pas très grande, il faut un ménage sans enfants.
Ah oui, bah, alors, dites, celle-là, ça tombe plutôt bien.
Ah bon?
Est-ce que le travail est dur?
Non, monsieur, non.
Non, parce que ce que j'aurais voulu savoir, c'est si moi, j'aurais pu continuer à avoir mes petites occupations.
Mais naturellement, c'est la femme qui travaille à la loge.
Oui.
Qui s'occupe à la loge et le mari peut travailler en dehors.
Ben, en dehors, non, parce que moi, je travaille à la maison.
Ah bon, qu'est-ce que c'est que ce travail, non?
Je suis ferronnier.
Ah, alors non, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire, ferronnier? Mais vous faites un emplacement pour ça?
Oh non, c'est juste la place de l'enclume et...
Pas d'enclume, alors, il n'y a rien à faire, non.
Non, ce qui est embêtant surtout, c'est pour le bruit, parce que...
Le bruit, alors encore non, encore moins. Alors ça ne veut pas aller, monsieur. Alors...
La loge est loin des appartements?
Oh non, justement, elle est sous les appartements, alors ça ne veut pas aller.
Et les gens sont difficiles?
Difficiles, oui. C'est une maison moderne. Mais...
Mauvais caractère, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez quand on n'entend taper toute la journée? C'est pas drôle, non?
Ah non, je tape pas non plus toute la journée, madame. Vous savez, il y a des moments où je cisèle, alors...
Non, c'est pas ce qu'il nous faut. Le papa, monsieur, ça serait une erreur.
L'enclume, c'est sur le coup de 7-8 heures du matin, mais à 9 heures, c'est fini.
Oui, ben non, et genre, je sais pas. Non, c'est pas ce qu'il nous faut.
Ouais.
Parce qu'il faut ici, monsieur, je regrette. Mais...
Parce que ça aurait pu être amusant, justement, d'avoir un petit artisan au rez-de-chaussée.
C'est amusant, je ne crois pas que ce soit le cas. Non, je ne crois pas. Je crois que ce serait une erreur.
Écoutez, franchement, ça ne dérange pas tellement, vous savez.
Oui.
Je vois ma femme qui est musicienne, par exemple, qui travaille son piano, et eh bien ça ne l'empêche pas du tout, de travailler, de m'entendre taper.
Non, je crois, monsieur, que ce n'est pas la peine que nous continuions à discuter. Ça ne fera pas l'affaire, je regrette.
Vous avez l'air de me mépriser parce que je travaille de mes mains.
Je dis simplement que vous ne pouvez pas faire l'affaire, c'est tout.
Tout le monde ne peut pas être intellectuel et...
C'est bien, monsieur,
comprenez
que nous cherchons une concierge, je n'ai pas besoin d'être intellectuel, mais ce n'est pas le cas. Moi, madame,
je peux très bien être concierge. Simplement parce que je suis un manuel et un artisan, je me fais jeter à la porte, ça fait 4 fois déjà.
Mais non, monsieur.
Qu'on me refuse des places.
Je dis que ce n'est pas possible. Vous n'avez qu'une petite loge, vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires dans une loge.
Mais madame, la place, j'en fais mon affaire. Je vous demande simplement de ne pas me traiter comme le dernier des derniers parce que je martèle le fer. Il en faut qu'il martèle le fer, madame.
Quel souvenir de Francis Blanche, un anarchiste rigolo.
Il était extraordinaire. Il était effectivement, c'est un très bon exemple de celui qui a lancé. Il faut pas oublier que les canulars téléphoniques, c'est lui le premier qui l'a fait sur cette antenne à Europe numéro 1, devenu Europe 1 depuis. Il était déchaîné. Il formait un couple avec Robert Villard, qui était aussi un meneur de jeu ici. Chichinou, il l'appelait, oui. Et il y avait des fous rires parce que il lançait des slogans du genre "Mesdames, n'attendez pas que votre poitrine tombe, posez-la par terre" quand même, en direct. Ou bien alors il disait, pour rentrer chez vous, une seule adresse, la vôtre. Et un jour, il a lancé Jeunes gens, ne vous présentez plus au bac, prenez le pont de Tancarville. Et je me rappelle qu'un jour, le malheureux Chichinou, enfin Robert Villard, était là pour passer les pubs. Et je crois que je devais être là aussi, d'ailleurs, en même temps. Il n'a pas pu finir parce que, à un moment, la régie n'était pas aussi, la régie publicitaire d'Europe n'était pas aussi performante, peut-être, qu'elle l'est actuellement. Et il y avait eu un peu de laisser-aller dans l'écriture. Je m'en souviens, mot pour mot. C'était pour les bas Le Bourget. On peut les citer, je crois que ça n'existe plus. Et le texto en direct, parce qu'il n'a pas eu le temps de lire avant, Robert Villard découvre le texte. C'était les femmes n'aiment pas les bas qui filent lorsqu'on les enfile. Il n'a pas pu finir. Mais parce que Chichinou, Francis Blanche s'en est emparé. Ça a duré. C'est une des plus grandes rigolades. Une des plus grandes rigolades, parce qu'il y a des vous avez un sautisier.
Il y en a une autre avec une éponge qui gonfle aussi.
Ah, je ne m'en souviens pas de celle-là.
On l'a passé dans une émission précédente.
Et c'était une des plus grosses rigolades d'Europe.
Parmi les personnes qui auront marqué votre carrière, j'en ai choisi deux. Il y a un homme de théâtre, Jean Villard, et puis un cinéaste, Yves Robert. Yves Robert, spectateur de parties de tennis où Jean-Loup Dabadie et vous-même vous affrontiez sur le court. J'ai retrouvé cette interview de Jean-Loup Dabadie, interrogé par Jean-Luc Delarue dans l'émission Goûtez-moi ça en 1990, extrait.
Nous allons maintenant évoquer votre héros, Jean-Loup Dabadie. Ça a été difficile de vous faire lâcher un seul nom.
Bah oui, parce que, je sais pas, moi j'avais un bon choix. Je sais qu'on m'a parlé de Jean Villard et je trouve que ça magnifique, mais c'est pas interdit que je dise d'autres noms.
Au contraire.
Bon, et bien parmi les autres personnes avec qui j'avais parlé, mais là je pensais qu'il prendrait ça trop pour la flatterie en direct, même si c'est une flatterie affective. Yves Robert, qui est un personnage considérable et pour moi, est très important pour ma vie, avec qui je travaille tout le temps, sauf quand je suis avec vous, en ce moment, aurait pu être aussi un de mes grands personnages.
Et puis Bach, et puis voilà. Mozart, et puis Gérard Depardieu. Donc on va essayer de parler de Jean Villard un tout petit peu, sinon on va pas y D'accord. arriver. Puis vous l'avez connu, approché de près, et puis je crois que c'est un D'accord. homme qui compte beaucoup pour tous ceux qui aiment le théâtre en France. Oui. C'est un acteur, c'est un metteur en scène, un directeur de théâtre, on pourrait dire un animateur de théâtre également.
Oui, un inventeur de théâtre.
Alors Jean Villard, vous l'avez rencontré, vous travailliez avec lui au moment...
Non, ça serait très outrecuidant de ma part de dire cette chose-là. C'est un souvenir d'étudiant, mais ça a été aussi décisif pour ce que j'ai choisi de faire par la suite. Et moi j'étais fou de théâtre, j'allais tout le temps à Chaillot. Et Jean-Paul Moulineau m'a dit, voilà, le TNP engage, c'est-à-dire des frais chaque année au moment du Festival d'Avignon, deux étudiants pour être donc stagiaire, comme on dirait, auditeur libre pendant le festival. Ce qui fait que j'ai eu ce privilège magnifique. J'ai dit à mes parents, je ne sais comment, mais je veux faire ce métier-là, soit en écrivant, soit en étant comédien, metteur en scène, peintre, photographe. Et j'ai eu en plus de la chance de voir de près Jean Villard, qui était, du moins avec des petits jeunes gens comme moi, quelqu'un d'assez distant, assez cassant. Je ne veux pas dire qu'il pratiquait la démagogie ni le paternalisme, mais je l'ai vu travailler de près tous les jours, jour et nuit, cette année-là du Festival d'Avignon, où le programme était prodigieux. Je crois que c'est unique le programme qu'il y a eu cette année-là, puisqu'il y avait la reprise du Prince d'Hombourg, Gérard Philippe, la reprise de Don Juan jouée, mais génialement. Je pense qu'on peut vraiment mobiliser cet adverbe pour le Don Juan que jouait Villard lui-même, avec Daniel Sorano qui était Sganarel, avec des acteurs extraordinaires autour pour jouer Pierrot et les autres, qui étaient Darras, Christiane Minazzoli qui jouait Charlotte, Monique Chaumette qui n'était pas encore la femme de Noiret qui jouait Elvire, Philippe Noiret lui-même qui jouait le commandeur. Enfin, vous voyez, oui. Ça c'était Don Juan. Et inoubliable, c'est bien dommage qu'on n'est pas comme on a maintenant les cassettes des spectacles.
Ouais. Garder une trace de ça.
Oui, qui était Simna, une des pièces les plus emmerdantes qu'on ait pu travailler à l'école et qu'on travaille encore. Mais Deschamps et Villard dans Auguste, qui ne savait pas un mot de son cinquième acte, qu'il prenait complètement au souffleur. J'ai vu ça, c'est un souvenir absolument magnifique. Je me suis dit, quelle vie le théâtre. Il avait un grand manteau rouge et il attrapait tous les alexandrins. Hémistiche par hémistiche, au souffleur, comme on dit. Il raflait les alexandrins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi. Je n'oublierai jamais ça. C'était magnifique.
Une dernière phrase de Jean Villard qui a déclaré: le théâtre devrait être public comme l'eau, le gaz et l'électricité. Voilà, c'est un des héros de Jean-Loup Dabadie.
On a entendu beaucoup de noms de gens pour qui, je crois, vous avez de l'estime.
L'estime, je suppose qu'ils s'en foutent, mais c'était en tout cas beaucoup d'admiration, effectivement. Ouais. Jean Villard, j'ai eu la chance. Je l'ai très peu connu, je l'ai connu, bien sûr, mais je fais quelques interviews de lui, mais j'ai eu la chance. chance de voir Gérard Philippe jouer deux fois. J'ai vu effectivement le prince de Hambourg au château de Saint-Malo et je l'ai vu dans le Cid à Chaillot. Et c'est des souvenirs extraordinaires. Jean-Louis Dabadie, effectivement, puisque vous y avez fait allusion, en parlant d'Yves Robert, est à l'origine avec moi, on était quatre à jouer au tennis. C'est-à-dire Jean-Louis Dabadie, Alain Sard, le producteur, Gilles Jacob, actuel patron du Festival de Cannes, et moi-même. Et le film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément, est parti de là. Parce que l'idée géniale d'Yves Robert Dabadie, c'est de dire que les quadragénaires que nous étions alors, quand ils se mettaient en short, ils se mettaient en culotte courte et ils redevenaient des enfants. Et ils devenaient des ados qui disaient des conneries comme les ados. Et bien sûr, les conneries, entre guillemets, qu'ils ont insérées dans le dialogue étaient bien supérieures aux nôtres. Mais enfin, l'idée, c'est le lieu géométrique de quadragénaires en culotte courte qui font les idiots de chaque côté d'un court de tennis. C'est parti de là, puisqu'on jouait au tennis régulièrement, rue Avenue Mozart, tous les vendredis, tous les jeudis. Et Yves Robert venait prendre des notes.
Qu'est-ce que vous auront appris ces années de jeunesse à Europe 1, ces 10 ans passés, puisque vous partez en 1969.
Fin 69, j'étais viré en 69. Beaucoup. Moi, j'ai tout appris ici. Moi, j'ai gardé une reconnaissance éperdue à cette maison où je ne vais jamais, c'est pas du tout de la démagogie lacrymogène, mais je ne mets jamais.
C'est pas votre genre,
non. Non, c'est pas mon genre. Mais je ne reviens jamais ici sans une certaine émotion, comme on dit, même si tout a changé, les bureaux. Enfin, je vous l'ai dit off tout à l'heure, vous êtes. Votre bureau est l'endroit où a été le mien, avec le seul. La fenêtre avec balcon, ça m'a fait quelque chose aussi. Mais non, pour être. Redevenons plus professionnels et pas du tout émotionnel, j'y ai tout appris. Ce qui était formidable avec cette maison, c'est qu'on ne vous mettait pas à l'antenne sans que vous n'ayez tous les rudiments de tout, de tous les domaines. J'ai fait Europe Midi, Europe Soir, Europe Matin, j'ai fait la nuit, j'ai fait l'après-midi, j'ai fait les flashs, j'ai fait du reportage, j'ai fait du desk, j'ai fait l'information générale, la politique étrangère, les faits de société,
tout.
Le sport, non, le sport, j'en pratique, mais je suis incapable d'en parler. Non, j'étais exempté de sport. Et ce qui était bien, c'est qu'avant de vous mettre à l'antenne, vous saviez, on avait une culture professionnelle, politique, économique, culturelle, je dirais presque, avant qu'on soit à l'antenne. Et ça, c'est une formidable leçon de radio. Et moi, je dois tout à cette maison. Ça n'empêche pas que je suis aussi un accro du service public. Je pense que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Vous aimez toujours autant le jazz? Vous jouez toujours du piano?
Je joue toujours pour mon plaisir, pas celui des voisins, mais enfin, bon, oui, effectivement. Et j'ai deux pianos à la campagne à Paris. Et je joue beaucoup j'essaye de jouer un peu de jazz. Mais...
Merci Pierre Bouteillé d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous, Marc.
Elle est malheureusement terminée. Rendez-vous à dimanche prochain, même jour, même heure, même pomme, comme l'a écrit Patrick Bruel. En attendant, bonne journée, bon dimanche, bonne radio. Ciao.